L'actualité de ce dimanche, Jacques Terrance, Bernard Poiret.
Jacques, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une.
Les dégâts sont considérables à Paris après la mobilisation des Gilets jaunes. Dès le début de ce journal, nous serons en direct des Champs-Élysées où les commerçants s'affairent à remettre les boutiques en état. La marche du siècle pour le climat a été un succès. Défilé pacifique partout en France avec de nombreuses familles et parfois quelques Gilets jaunes. Et puis, une idée sortie pour le week-end, le Salon du Livre, c'est ce week-end jusqu'à demain, porte de Versailles à Paris.
Selon la police, 32 000 gilets jaunes partout hier en France. 7 fois plus selon les gilets jaunes eux-mêmes. Et Paris qui se réveille ce matin avec les stigmates des affrontements d'hier sur les Champs-Élysées.
10 000 personnes ont défilé dans la capitale avec un regain de violence. 237 personnes ont été interpellées. 144 placées en garde à vue d'après la préfecture de police. Les premières tensions avec les forces de l'ordre ont éclaté dès le matin avant que ça ne dégénère dans l'après-midi lorsque les casseurs ont brisé des vitrines, pillé des boutiques et mis parfois le feu. Romain Oquet, vous êtes en direct des Champs-Élysées pour Europe 1, où les commerçants s'affairent à remettre ce matin en état leurs magasins.
Oui, la scène est pratiquement la même devant la plupart des magasins. Les commerçants balaient les morceaux de verre, répartant bien que mal les vitrines éventrées. Du côté de l'emblématique Fouquet's, l'ambiance est aussi sinistre. On a presque du mal à reconnaître le restaurant caché par une immense palissade noire. Des commerçants amers, exaspérés par les violences d'hier. Alves est chef d'exploitation d'un des cinémas de l'avenue. En arrivant ce matin, il n'a pu que constater les dégâts.
Tout est cassé, tout est tagué et tout. Ça fait 3 semaines qu'ils ont pété tout. On ne répare pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer. C'est inadmissible d'arriver à ce point. Ils sont obligés de fermer, sans compter la casse.
Ça se chiffre en quoi ?
Ah bah, en milliers d'euros. Hein.
Les équipes de nettoyage s'affairent aussi pour nettoyer la chaussée. Les pavés arrachés ont disparu, tout comme les morceaux de verre. Il ne reste plus que les traces de quelques départs de feu. Tout ça grâce au travail de Philippe. Il a été appelé en renfort pour remettre en état les abribus et les kiosques à journaux.
Ils ont fait fort, hein. Nous, au secours. Hein.
Vous avez beaucoup de boulot ?
Ah oui, il y en a beaucoup, parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont brûlé un kiosque complètement là-bas. Là. Ils ont cassé des glaces. Même hier, on regardait aux infos, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi.
Le nettoyage devrait encore durer toute la matinée, mais les séquelles, elles, resteront plus longtemps. Ce n'est pas un endroit où l'on a envie de se promener, me confiait à l'instant une touriste.
Romain Oquet en direct des Champs-Élysées pour Europe 1.
Et face à l'opposition qui dénonce une nouvelle fois l'incompétence de l'exécutif dans cette crise, Emmanuel Macron a été obligé d'écourter son week-end.
Le président était au ski dans les Pyrénées et ses photos sur les pistes ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Il est donc rentré en urgence pour rejoindre Christophe Castaner à Paris où se tenait une cellule de crise, Aurélie Herbemont.
Il était parti se ressourcer à la montagne, mais le répit aura été de courte durée. Hier, Emmanuel Macron a passé la journée en ligne avec son ministre de l'Intérieur et le Premier ministre pour suivre la situation. Le chef de l'État qui a aussi échangé avec des élus et ils sont plusieurs à lui avoir dit qu'il était important de rentrer à Paris vu la gravité de la situation. Le chef de l'État a donc écourté son week-end de direction la cellule de crise de Beauvau. Quelques heures plus tôt, c'est Édouard Philippe qui est allé apporter son soutien aux forces de l'ordre et dire sa très grande colère face aux violences. L'exécutif qui affiche à nouveau sa fermeté. Bientôt, on aura la loi anti-casseurs, explique un proche d'Édouard Philippe. On a besoin d'une loi efficace, martèle une députée qui espère sa validation par le Conseil constitutionnel. Tout comme ce ministre, indigné par l'incendie qui aurait pu piéger une femme et son bébé, il faudrait demander à Monsieur Toubon, le défenseur des droits, ce qu'il pense de tous ces gentils manifestants pacifiques, ironise-t-il.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
C'était l'une des réponses du gouvernement à la crise des Gilets jaunes. Vous le savez, le grand débat national, désormais il touche à sa fin.
Et il vous reste jusqu'à demain pour apporter votre contribution en ligne sur le site officiel. Et pour conclure, les 2 mois de concertation dans les régions, des conférences citoyennes ont lieu tout le week-end, comme à Lille, où 70 personnes tirées au sort étaient réunies hier. Reportage de Kevin Tullier.
Réunis par table de 8, les participants venus de toute la région débattent autour d'un des 4 thèmes choisis.
Le sujet clé qu'on a retenu, c'est les élus sont-ils le reflet de la population ? Aujourd'hui, on a un problème de professionnalisation des politiques.
Des débats pour ensuite faire des propositions Morgane et Maître Nageur. Il a participé aux premières manifestations des Gilets jaunes. Il se dit étonné mais fier d'avoir été tiré au sort.
Je suis assez surpris. Je m'attendais à un truc instrumentalisé, dirigé, tandis que là, c'est vraiment libre. Prendre la parole devant les gens comme ça, dire son opinion. à la table, on n'est pas d'accord. Et puis on arrive à sortir des choses communes, donc c'est positif.
Certains participants sont venus par curiosité. Louison, étudiante, et François, sans emploi, ont des messages à porter, mais tous les deux craignent de ne pas être entendus.
Ça ne doit pas juste être un moyen pour calmer les foules.
Moi, avec tout ce qu'on a débattu, je me suis vidé. Ça nous purge de nos démons. Est-ce que justement, c'est pas une manœuvre? On vient de notre plein gré, avec plein d'espoir. Est-ce qu'on va être entendu? C'est ça la grande question.
Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, mise en place d'une assemblée citoyenne. 12 propositions au total ont été retenues. Des propositions qui seront remises au président de la République dans quelques semaines.
Kevin Tullier à Lille pour Europe 1.
La suite de ce journal dans un instant. Bien sûr, il y avait les gilets jaunes hier dans la rue. Il y avait aussi les manifestants pour le climat qui dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. A tout de suite.
8h06 sur Europe 1.
6h, 9h. Bernard Poirette sur Europe 1.
Vos infos reprennent avec Jacques Terrance et Bernard Poirette.
Jacques, ça ne vous a pas échappé, il n'y avait pas que les gilets jaunes dans les rues hier en France, des cortèges partout en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.
Et à Paris, ils étaient même presque 5 fois plus que les gilets jaunes, 45 000 d'après le comptage du cabinet Occurrence, pour plusieurs médias dont Europe 1, et ils ont défilé dans le calme. Entre 3 et 4 000 personnes ont défilé également à Nantes, où notre correspondant Pierre-Baptiste Vandini les a suivis.
J'aime mes enfants. 4 mots tout simples sur un panneau qui disent toute la crainte pour l'avenir de Suzanne, une Nantaise venue manifester avec sa petite fille. Pour elle, le futur qu'on leur prépare est bien sombre.
Il va avoir de plus en plus de tempêtes, il va faire de plus en plus chaud, il va avoir des sécheresses, il y aura moins à manger pour tout le monde, il y aura des migrations parce qu'il y aura des catastrophes naturelles.
Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui va se passer, vous en êtes sûr?
À part si on se réveille un peu, on peut atténuer les dégâts, je pense.
Et c'est tous ensemble, à tout niveau, qu'il faut agir, Martel Elodie.
Il faut quelque chose de collectif, d'une prise de conscience, des gens qui ont le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir, c'est un chef d'entreprise, c'est un élu. On a tous un pouvoir. Et si on reste tous dans notre petit coin, ça ne fait pas grand-chose. On a besoin d'être sensible à ça, on a besoin d'être citoyen, on a besoin d'être écolo. Mais il faut dépasser ça pour se dire qu'on va faire ça pour tout le monde. Et nous, évidemment, Bobo, Nantais, on est des écolos, mais on veut sauver la planète de tout le monde. Parce que même si on est citoyen, on salit la planète des autres.
Et dans le cortège, beaucoup de gilets jaunes, climatiques, sociales. Le mot « urgence » était sur toutes les lèvres hier. Nantes, Pierre-Baptiste Vandini, Europe 1.
Et je vous rappelle que dans moins de 10 minutes, Yves Jadot, qui est le tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes, sera l'invité d'Europe 1.
Un nouveau bilan en Nouvelle-Zélande après l'attaque de Christchurch. 50 morts et 50 blessés. Les fidèles abattus dans les deux mosquées étaient âgés de 3 à 77 ans ce dimanche dans le pays. Un hommage est rendu aux victimes.
C'est bien sûr pas Yves Jadot, mais Yannick Jadot, vous voudrez bien m'excuser. Par ailleurs, nous vous suggérons une idée de sortie. À Paris, le salon du livre se tient porte de Versailles. Il ferme ses portes ce soir. 150 000 visiteurs environ auront arpenté ses allées en 4 jours.
Et une fois encore, ça va jouer des coudes, comme on dit, entre les fans des 3 000 auteurs présents pour cette édition. Nicolas Carreau a notamment rencontré Aurélie Valogne, la plus grande vendeuse de livres en France ces jours-ci, et bien sûr ses fans.
Parfois, ça tient presque de la performance sportive. Aurélie Valogne publie son nouveau roman, La cerise sur le gâteau, et ils sont déjà des centaines à s'agglutiner autour du stand. En moyenne, Aurélie Valogne signe 600 livres, elle aime ça, mais l'exercice finit par être douloureux.
À la fin, j'ai un peu mal, j'avoue, au coude, à l'épaule, mais je fais des petits exercices après en sortant de salon, et peut-être que j'aurai le droit à un massage.
Et pourtant, elle trépigne en attendant l'heure de la signature, elle ne s'en lasse jamais.
L'écriture, c'est un métier hyper solitaire, donc quand on peut enfin rencontrer les lecteurs, c'est une grande chance. Donc, non, j'ai jamais marre.
Sur les starting blocks, je croise Mathilde. Elle attend Aurélie Valogne. À sa dernière tentative, elle avait dû abandonner. Trop de monde. Cette fois, elle est arrivée tôt pour être la première sur les rangs. Juste derrière elle, il y a Camille, grande fan. Je lui pose une question, mais elle interrompt l'interview puisqu'Aurélie Valogne vient d'arriver. Elle est à peine à 1 mètre de son idole.
C'est émouvant. Quand on a lu tous ces livres, je sais pas, ça fait quelque chose. C'est le final de la rencontrer.
Ça, c'était hier. Aujourd'hui, vous pourrez rencontrer Philippe Besson et Laurent Godet, par exemple, à 14 et 15 heures.
Nicolas Carreau pour Europe 1, Salon du Livre, qui se poursuit jusqu'à demain. Port de Versailles.
Absolument.
Et merci à 8h12, c'est votre journal de sport avec Jacques Terrance.
Jacques, c'est sans doute le match en football le plus attendu de la journée, et même certainement. Hein. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Parc des Princes, 21h.
Avec deux grandes questions, Mario Balotelli sera-t-il sur le terrain? Hier soir, il n'a pas pris son avion pour la capitale avec le reste de l'équipe. L'attaquant marseillais serait malade. En cas de forfait, ce serait un coup dur pour l'OM. Et puis l'autre interrogation, comment le public parisien va-t-il accueillir l'équipe du PSG après son improbable élimination, vous vous en souvenez, de la Ligue des Champions? On parle d'éventuelles banderoles hostiles dans les tribunes ce soir, voire d'une grève des encouragements pendant les 30 premières minutes du match. Ça ne plaît pas vraiment au coach parisien Thomas Tuchel.
Honnêtement, si quelques supporters font ça demain, je suis triste. Parce que ce n'est pas mérité. Je sais qu'ils sont en colère et ils sont tristes et ils sont déçus. Je sais ça. Mais j'ai dit, nous sommes plus tristes, les plus déçus. Nous, le staff et les joueurs, on doit jouer demain pour 90 minutes et on doit jouer notre meilleur niveau. Et c'est absolument nécessaire parce qu'on a besoin de nos supporters. Et dans un match comme ça, c'est absolument important que nous avons une ambiance qui peut nous pousser, qui donne confiance à nous.
Voilà, PSG-OM ce soir à 21h et soirée spéciale dès 20h sur Europe 1 autour de Lionel Rousseau. Parmi les autres matchs de Ligue 1 aujourd'hui, Lyon-Montpellier ou encore Bordeaux-Rennes, hier on aura retenu de la soirée d'hier l'impressionnant 5-0 de Saint-Etienne à Caen ou encore la victoire 1-0 de Guingamp à Dijon.
Parlons rugby également. Il y a eu hier l'épilogue pour le tournoi des Six Nations et le Pays de Galles l'a emporté, sans surprise.
Et les Gallois ont réussi leur 10e grand chelem et ont gagné leur 5e match sur 5. 25-7 hier face à l'Irlande, à l'image de ce tournoi, avec un premier essai marqué dès la 69e seconde de jeu. Les Anglais et les Irlandais sont respectivement second et troisième. Les Français terminent 4e devant l'Écosse et l'Italie et ont sauvé l'honneur en battant les Italiens 24-14. Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 de France, y voit un espoir avec en ligne de mire la Coupe du monde de rugby au Japon.
Si je me réfère à cette équipe du Pays de Galles telle que je l'ai vue il y a un mois et demi, et où je nous ai vus nous, je me dis, ce jour-là, il n'y avait pas un écart énorme. Je ne l'ai pas senti. Mais la confiance, d'un côté, elle s'est renforcée, de l'autre, elle s'est délitée. Donc voilà, on va essayer de retrouver à travers la Coupe du Monde la confiance que l'on a perdue sur ce tournoi.
Voilà, le propos recueilli par Simon Rubin. Le Paris-Nice cycliste, le Polonais Michał Kwiatkowski a cédé son maillot jaune à son coéquipier Egan Bernal après l'avant-dernière étape reine de la course au soleil et l'arrivée au Turini remportée par le Colombien Daniel Martinez. Aujourd'hui, place à une boucle de 110 km dans l'arrière-pays niçois. Et puis, il y avait de la F1 ce matin. Le classement général officieux du Grand Prix australien après la première manche, c'est Bottas qui est en tête, Lewis Hamilton en second, le monégasque Charles Leclerc a terminé 5e et le français Pierre Gasly 11e alors qu'il était parti 17e.
Voilà, donc victoire dans ce premier Grand Prix de la saison de Formule 1 du Finlandais Bottas sur Mercedes. Merci beaucoup, c'était le 8h. Présenté par Jacques Terrance qui revient dans une heure.
Bon début de journée avec Europe 1, il est 8h14.
À suivre dans 3 minutes l'invité de la rédaction d'Europe 1 ce matin, Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes du mois de mai. Pour ce scrutin, il y a au moins 4 listes en France qui font profession de sauver la planète. Ça fait du monde au portillon électoral.
6h, 9h, toute l'info du week-end avec Bernard Poirette sur Europe 1.